France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce. Nous sommes sur la plage de Troie, au petit jour, un matin triste, après une nuit atroce qui a vu la mise à sac de la ville et la mort de la plupart des Troyens, massacrés par des Grecs déchaînés après 10 ans de guerre. Ces vainqueurs n'ont rien respecté. Hommes, enfants, temples, cultes, femmes. Sur la plage, les femmes de Troie sont là, parquées. Elles attendent leur nouveau maître, les mâles grecs, dont elles seront les esclaves en Grèce. L'armée va procéder à leur répartition. À Troie, il n'y a plus que des femmes et quelques enfants. Les autres êtres humains ont été éliminés, à part quelques rescapés qui ont réussi à s'en aller.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Vous, femmes de Troie, êtes désormais la propriété des rois de Grèce. Nous vous ramenons en Grèce avec nous. Une fois là-bas, vous serez offerte en compensation des torts et des souffrances causées par vos époux et fils. Emmenez-les.
Ces femmes ont tout perdu. Mari, parents, frères, et même pour la plupart, enfants et nouveau-nés. Rien n'a échappé à la fureur des Grecs. Ces femmes ont perdu leur liberté. Elles sont traitées comme des êtres inférieurs. Des choses utiles dont on se sert pour les travaux de la maison, pour le plaisir, mais qu'on ne considère pas, qu'on n'écoute pas, alors que certaines étaient des princesses. Une d'entre elles était la reine respectée de toute la ville, Hécube, la vieille épouse du roi Priam. Elle a perdu tous ses enfants, Hector, l'enfant chéri, le grand héros, le défenseur principal de Troie, tué par Achille. Elle a perdu Paris, le séducteur, l'homme qui a enlevé Hélène et qui a apporté la guerre et la destruction dans sa ville, tué par Philoctète. Et aussi Déiphobe, qui a épousé Hélène après la mort de Paris, et que Ménélas, le premier mari d'Hélène, le légitime, a supprimé dans sa maison, et tant d'autres. Hécube règne encore sur ces femmes prisonnières, dépossédées de tout, mais elles ne règnent que sur du malheur. Les Troyennes sont désormais à jamais des esclaves, à cause des dieux, qui ont abandonné leur ville, ou qui ont voulu sa perte avec acharnement. Les dieux ont fait leur travail. Troie est tombée, comme Zeus le voulait depuis 10 ans. Ça a été long et dur. Zeus a dû s'opposer à d'autres dieux, mais il y est arrivé. Le jour d'après la chute de Troie, dieux et déesses commencent à souffler. Ils se retirent. Ils laissent faire les humains. Et ça n'est pas triste, si on peut dire. Les hommes, au sens d'être masculin, les Grecs, puisqu'il ne reste plus qu'eux de vivants, vont imposer leurs lois, leur violence, comme s'ils étaient des dieux, alors que les dieux ne leur demandent strictement rien. Ces hommes vont être déments, cruels, fourbes, par pure pulsion humaine, sans aucune intervention divine. Ils vont déclencher les tragédies tout seuls, sans y être poussés par les dieux. L'humanité est suffisamment armée pour se détruire elle-même. Elle n'a pas besoin des dieux. Face à ces hommes qui se prennent pour des divinités, les femmes troyennes vont subir, vont être humiliées. Mais elles vont parler, elles vont réagir, elles vont tenir tête, même si elles sont impuissantes.
Aie pitié de nous. Et prenant le recul du peintre, regarde-moi et considère quels grands mots sont les miens. J'ai été autrefois reine, me voici ton esclave. Autrefois comblée d'enfants. Me voici vieille ensemble, sans enfants, sans cité, sans appui. Mortelle la plus infortunée.
Est-ce que la liberté ne demeure pas, même si des maîtres, des puissants, des arrogants, contents d'eux-mêmes et gonflés d'orgueil, croient l'avoir supprimée pour toujours, à coups de meurtre et d'avilissement? Est-ce que ces femmes, désarmées, vaincues, n'ont pas dans leur chute de quoi nourrir leur colère, leur fierté, tellement la chute a été grande et brutale? La liberté, la grandeur, ne s'effacent pas, même si elles sont piétinées. Au contraire, ces femmes étaient tellement souveraines, glorieuses, que leur abaissement soudain, rend encore plus évidente toute leur grandeur. Certains Grecs tomberont bêtement amoureux de leur captive. Mal leur en prendra. D'autres se croient habiles et essayent de les convaincre par de beaux discours de la légitimité de la torture qu'ils leur imposent. Mais ces femmes parleront mieux que ces hommes. Elles seront plus subtiles que leurs bourreaux. Le malheur peut devenir une ressource. Écoutons ces voix de femmes après la chute. Euripide, le grand poète tragique athénien, a mis ses voix féminines en scène. Il a écrit plusieurs pièces sur et pour les femmes de Troie. D'abord, une tragédie nommée Hécube. Puis, une dizaine d'années après, les Troyennes. Ces tragédies sont surprenantes. Les prisonnières troyennes ne cessent d'être humiliées par leurs virils vainqueurs. Mais la petitesse, l'abaissement sont du côté de ces vainqueurs. Ils ont la force pour eux. Ils sont les maîtres. Mais ils ne sont que cela. Ils ont tellement peur d'être mal jugés par leurs semblables, par les autres Grecs. Ils ont tellement peur de ne pas apparaître assez vainqueurs, assez dominateurs aux yeux des autres, qu'en fait, ils ne sont pas libres. Ils ne pensent qu'à l'opinion qu'on aura d'eux. Les femmes, elles, qui ne sont plus rien, n'ont pas ce souci. Démunies, elles vont rester souveraines.
Claire Nancy, helléniste.
Euripide s'est servi des personnages de femmes pour construire sa critique de la cité. Et alors, il s'est servi des femmes de plusieurs manières. D'une part, on peut remarquer que toutes les femmes d'Euripide sont des femmes qui sont des femmes extrêmement lucides, qui parlent, qui ne sont pas seulement, comme dirait Périclès, des femmes dont on parle, mais c'est des femmes qui sont capables de parler, qui sont capables de tenir un discours, et qui ont un discours extrêmement lucide et vigilant. C'est-à-dire qu'elles ne se bornent pas simplement d'accomplir la fonction qui est la leur, ou de protester contre cette fonction, mais elles disent ce qu'elles ont à dire sur les discours que les hommes tiennent, sur la manière dont ils se comportent, sur la manière dont ils conduisent, par exemple, l'histoire.
Après la nuit terrible qu'a vécue la ville de Troie, Hécube, la reine déchue et veuve, son mari, le roi Priam, a été massacré dans des circonstances abominables, impies, sur l'autel sacré de Zeus, où il s'était réfugié. Hécube a aussi perdu tous ses fils. Elle gît à terre, quasi morte, écrasée. Elle est étendue sur le sable, immobile, devant la tente qu'a occupée pendant toute la guerre le chef de l'armée grecque, le roi Agamemnon. C'est dans cette tente qu'on a confiné les captives troyennes les plus nobles et leurs servantes. Hécube crie, elle hurle de douleur. Mais ses cris ne sont pas une plainte. Ils sont une réaction, un sursaut. Elle veut se redresser. Elle ne veut pas se laisser abattre. Elle veut avoir l'énergie de chanter. Elle veut trouver la muse qui saura dire son mal, lui donner une forme, même si, terrassée par l'âge et par le deuil, Hécube est incapable de danser. Hécube, handicapée par la douleur, par la vieillesse, va témoigner et inventer un chant nouveau. Elle veut à tout prix parler et qu'on l'entende.
Lève-toi, frappée par le démon, loin du sol, ma tête. Dresse le cou. Ce n'est plus Troie, cela. Et nous ne sommes plus les rois de Troie. Le dieu a changé. Supporte-le. Navigue avec le flot. Navigue selon le démon. Ne dresse pas la proue de ta vie contre la vague quand tu navigues au fil des événements. Aïe, 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 aïe. Qu'y a-t-il à ne pas pleurer pour moi, la désolée? Ma patrie s'en est allée, et les enfants, et le mari. Ô majesté immense, maintenant réduite de mes ancêtres, comme tu n'es rien. Que dois-je taire et ne pas taire? Que chanter pour les morts? Moi, attristée par le destin lourd de mes membres penchés, tel que je suis là, posée, étendant mon dos sur un lit rigide. Hélas, ma tête, hélas, mes tempes et mes flancs. Comme je désire entrer dans la ronde et laisser mon dos et ses vertèbres rouler d'un bord à l'autre de mon corps, selon chaque fois l'élégie de mes larmes. La muse des malheureux est celle-là. Donnez voix aux désastres sur lesquels on ne danse pas.
Les cris et les mots d'Hécube font venir d'autres Troyennes, d'autres captives apeurées, perdues. Elles ne savent pas quel sort les Grecs leur réservent. Elles attendent le résultat de la loterie qui les distribuera aux chefs grecs et en feront les esclaves.
le cœur.
Oi, moi, tremblante, j'ai quitté cette tente d'Agamemnon pour t'entendre, reine, m'assassiner. N'est-ce pas la décision des Argiens bien établie, moi la désolée? Où, sur les poupes, déjà, les marins s'organisent pour bouger les avirons?
Hécube.
Enfant, je suis venue l'âme matinale, hors d'elle, frissonnante.
Le cœur.
Un officiel des Grecs est-il déjà venu? Près de qui suis-je placé en esclave, accablé?
Hécube.
Tu es placé tout près de ta loterie.
Le cœur.
Io, io. Qui, des Argiens ou des gens de Phthie, ou vers un pays insulaire m'emportera, malheureuse, loin de Troie?
Hécube.
Hélas, hélas, près de qui, moi, l'accablé? Où, vers où sur la terre serais-je esclave, vieillarde comme un bourdon, moi la défaite, apparence de cadavre, statue sans vigueur parmi les cadavres, aïe aïe, aïe aïe. Qui fera la gardienne devant les portes, ou gouvernante d'enfants, moi qui à Troie détenais les honneurs et le pouvoir des rois?
Mais parmi les captives, il y a des privilégiés, si on peut dire. Un représentant de l'autorité grecque s'approche. Il déclare que le roi Agamemnon veut tout de suite la prisonnière qu'il s'est adjugée et qui doit donc lui appartenir, Cassandre. Fille d'Hécube et de Priam, la plus belle, disait Homère.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de la Combe.
Pierre Judet de la Combe nous parle du jour d'après, la prise de Troie.
As-tu consulté les dieux au sujet de la date et de l'heure?
Les augures sont favorables, Seigneur, ainsi que les prophéties, à l'exception d'une seule. L'une de nos prêtresses désapprouve vivement ce départ.
Il s'agit de ma fille.
Ne te fâche pas, Priam. Cassandre est malade.
Elle a perdu l'esprit.
Cassandre est l'une des victimes des Grecs victorieux. Elle a subi une violence de la part d'Ajax, le petit, pas le grand Ajax, l'homme au bouclier, qui s'est suicidé bien avant la prise de Troie. Elle s'était réfugiée dans le temple d'Athéna. D'après certaines versions, Ajax l'a violée dans le sanctuaire. D'après d'autres, que reprend Euripide, le guerrier l'a simplement, si on peut dire, arrachée de force à la statue de la déesse à laquelle elle s'accrochait. De toute manière, Athéna en est devenue furieuse contre lui, contre les Grecs en général, qui n'ont pas puni Ajax. Cassandre, parmi les captives, a un statut spécial. Elle connaît l'avenir, elle est prophétesse, inspirée par Apollon. Mais ce dieu, qui lui a donné le don de prophétie, lui a enlevé la capacité de convaincre qui que ce soit. Personne ne la croit alors qu'elle dit le vrai. Apollon s'est vengé parce que autrefois, elle a osé se refuser à lui. Cette fois, Cassandre ne se refusera pas à son maître. En se donnant à lui, elle sait qu'elle lui sera fatale. Agamemnon, le chef odieux qui a dévasté Troie, est une proie facile pour Cassandre. Il est tombé amoureux d'elle, dit un messager grec.
L'amour de la fille inspirée l'a touché de son arc.
Cassandre, selon ce messager, sera traitée comme une épouse. Elle devrait être contente, car elle aura droit à des accouplements royaux. Le messager, envoyé par Agamemnon, demande qu'on fasse sortir tout de suite Cassandre. Là, il est stupéfait. Il voit arriver à lui une grande lumière, de grandes flammes. Il croit que les Troyennes ont mis le feu à la tente où elles étaient parquées. En fait, c'est Cassandre qui sort, complètement dingue. Elle est en délire, vêtue comme une dévote de Dionysos, une bacchante. Elle danse de manière chaotique. Elle tient des torches à la main. Cassandre hurle. Elle dit qu'elle célèbre dans une grande joie son mariage avec Agamemnon.
Porte, ô porte, je tiens la lumière, je vénère, j'enflamme, vois, vois, ce sanctuaire par des flambeaux, mariage, ô Seigneur Hyménée. Bienheureux l'époux, bienheureuse moi dans le lit royal, l'épousée d'Argos. Mariage, ô Seigneur Hyménée, toi, mère, dans les larmes et dans les gémissements sur mon père et ma patrie chérie, tu t'en tiens à gémir. Moi, sur mon mariage, j'attise la lumière du feu jusqu'au resplendissement, jusqu'à l'éclat. Danse, mère, lève ton pied, suis la ronde, ici, là, avec moi, portant l'allure la plus aimable des pas. Criez, Hyménée. Oh, avec des chants de bonheur et des vociférations, criez l'épousée. Allez, ô fille des Phrygiens, avec vos belles robes, chantez l'homme destiné au lit de mes noces, mon époux.
Puis Cassandre s'explique. Elle sait, car Apollon le lui a soufflé, que Clytemnestre, l'épouse légitime d'Agamemnon, tuera son époux à son retour pour lui faire payer la mise à mort de leur fille Iphigénie. Elle sait que Clytemnestre ne sera pas mécontente de faire payer aussi à Agamemnon ses amours adultères avec Cassandre. Elle sait qu'ensuite le meurtre va s'installer dans cette famille, puisque Clytemnestre sera tué à son tour par son fils Oreste. La famille de son vainqueur sera détruite. Elle sait aussi qu'elle, Cassandre, sera une victime de ce déchaînement de violence, car Clytemnestre la tuera en même temps qu'Agamemnon d'un coup de hache. Mais dit-elle, ça, ce n'est pas grave. Puisque avec la mort de ce roi, puis avec les désastres de sa famille, Troie, Priam seront vengés. Ça vaut donc le coup de célébrer joyeusement ces noces mortelles avec le chef de l'armée grecque. Cassandre, la délirante, ne se contente pas d'annoncer l'avenir. Elle argumente de manière serrée et rigoureuse. Elle tente de montrer à sa mère que les Troyens vaincus ont été et sont encore plus heureux que les Grecs. Des milliers de Grecs sont morts loin de chez eux, sans famille pour les pleurer, pour revêtir leurs cadavres de beaux vêtements, alors que les Troyens étaient toujours entourés de leurs proches dans leur maison. Et s'ils mouraient, c'était glorieux, puisqu'ils mouraient pour leur patrie.
Pour ces raisons, mère, il ne faut pas que tu plaignes le pays, ni mon union, car ceux qui sont le plus ennemis de moi et de toi, par mon mariage, je vais les anéantir.
Évidemment, Le messager des Grecs ne comprend rien de ce que dit Cassandre. Et surtout, il ne comprend pas comment son chef, le grand Agamemnon, le vainqueur, a pu s'amouracher d'une telle folle. Lui, l'homme humble, d'une classe sociale inférieure. Il se serait bien gardé de vouloir une femme pareille.
Les majestueux et les sages d'apparence ne sont supérieurs en rien à ceux qui ne sont rien. Car le plus grand seigneur de tous les Grecs, Agamemnon, le fils d'Atrée, s'est soumis par choix à l'amour de cette délirante. Et moi, qui suis pauvre, je ne me serais jamais porté acquéreur du lit de cette femme.
Comme l'avait prédit Cassandre, Agamemnon sera tué sans aucune gloire par Clytemnestre, sa femme, le jour même où il rentrera chez lui. Et elle, Cassandre, sera traitée ignominieusement. Elle sera tuée et n'aura même pas droit à une tombe.
Et moi, répudié en cadavre nu, les précipices où coule l'eau des hivers, tout près de la tombe du fiancé, me livreront aux bêtes pour qu'elles me déchirent, moi, la servante d'Apollon. Ô couronne du plus chéri des dieux, bijoux de Dionysos, adieu, je laisse les fêtes où avant je brillais de plaisir.
Elle sait qu'on ne la respectera pas, mais ce n'est pas cela qui compte. L'important est qu'elle apporte la mort chez ses ennemis.
Épousons dans l'Hadès le fiancé. Ô patrie bien-aimée, et mes frères dans la terre, et notre créateur, mon père, vous ne m'accueillerez pas dans longtemps. J'arriverai chez les cadavres en porte-victoire et en ravageuse de la maison des Atrides qui nous ont anéantis.
Le délire a ses limites. Il permet de dire le vrai, de dire la vengeance, mais il ne débouche que sur la mort, n'empêche. Cassandre, la prophétesse véridique, sait tout dire. Elle sait que les Grecs ne vont pas rentrer indemnes chez eux. Ulysse, par exemple, va souffrir pendant des années avant de retrouver son île et chez lui, il tombera sur une foule de malheurs. Le sort des Troyens est en fait plus enviable, affirme Cassandre. Un malheur ne va pas sans l'autre. Hécube voit partir sa fille Cassandre vers une mort certaine. Ses épousailles avec Agamemnon ne lui laisseront aucune chance de survie. Et juste après, Hécube va devoir affronter un autre malheur, pour une autre de ses filles. Elle apprend que les Grecs veulent mettre à mort la jeune et magnifique Polyxène. Les Grecs s'apprêtent à la sacrifier sur le tombeau d'Achille. Achille était tombé amoureux de cette fille. Il voulait même l'épouser, quitte à trahir son camp. Mais il n'a pas eu le temps. Les frères de Polyxène, les fils de Priam, Paris et Déiphobe l'ont massacré avant. Mais une fois mort, Achille ne s'avoue pas vaincu. Il n'est plus de ce monde. Ses funérailles ont été grandioses. Et sur un cap qui s'avance loin dans la mer Méditerranée, bien visible, les Grecs lui ont érigé un immense tombeau, un grand tertre. Or, après la victoire des Grecs, le fantôme d'Achille est apparu au sommet de ce tombeau, en armes, lumineux, splendide. Ce fantôme glorieux réclame avec insistance que Polyxène, la fille qu'il tenait tant à épouser, soit égorgée pour lui, sur sa tombe. Achille précise, pour convaincre les Grecs qui ne seraient pas convaincus de la nécessité d'une telle horreur, qu'il bloquera les vents de la Méditerranée et empêchera la flotte des Grecs de rentrer en Grèce tant qu'il n'aura pas satisfaction. Polyxène devra être sacrifié pour que des vents favorables se mettent à souffler. Exactement comme 10 ans auparavant, la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, Iphigénie, a été sacrifiée par son père pour que la flotte grecque puisse appareiller et faire route vers Troie.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
C'est pas moi qui sers autour de ton cou. Tu Tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop des ventres mous. C'est pas moi qui sais autour de ton cou. C'est pas moi qui sais autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lui de ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui sais ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser nous. Son trou, c'est lui de ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui sais autour de ton cou.
Pierre Judet de Lacombe nous dit comment les femmes de Troie racontent la guerre.
Les Grecs sont partagés. Ulysse plaide avec vigueur pour la mise à mort de la jeune fille. Son argument est seulement politique. Une cité doit montrer qu'elle respecte ses morts et leur volonté. Sinon, aucun citoyen n'acceptera d'aller mourir pour elle. Or, Achille est de tous les morts grecs le plus glorieux, le plus méritant, celui qui demande le plus de respect. Avec cet argument, Ulysse essaye de démontrer à Hécube, la mère de Polyxène, que lui, Ulysse, est un homme sage, modéré et juste. Certes, il doit bien reconnaître qu'autrefois, Hécube lui a sauvé la vie. C'était une nuit. Ulysse s'était introduit clandestinement dans Troie. Hécube l'avait reconnu. Mais comme Ulysse l'avait supplié, avec toutes les paroles et tous les gestes rituels requis, Hécube, par scrupule religieux, l'avait laissé partir. Ulysse, qui s'apprête à faire tuer Polyxène, fait la leçon à la pauvre reine.
Hécube, laisse-toi instruire et dans ta colère, ne va pas chercher malveillance chez le bon orateur. Ta personne, à qui j'ai dû ma chance, je suis prêt à la sauver, et je ne parle pas en l'air. Mais ce que j'ai dit devant tous, je ne le démentirai pas. Trois prises. Le premier guerrier de l'armée, Achille, doit obtenir ta fille, dont il réclame le sang. Car trop de cités souffrent de cela. Qu'un homme d'ardeur et de valeur n'y gagne rien de plus que les médiocres. Or, pour nous, femmes, Achille est digne d'honneur, lui qui est mort en héros pour la terre de Grèce. N'est-ce pas cela la honte, que l'ayant traité en ami de son vivant, mort, nous ne le traitions pas de même? Et puis, que dira-t-on quand, à nouveau, il faudra lever une armée pour combattre des ennemis? Lutterons-nous ou préférerons-nous la vie si nous voyons que le mort n'est pas honoré?
Tout cela, c'est du n'importe quoi. Dans ce discours, l'existence de Polyxène, le deuil des siens, l'histoire d'Achille ne comptent pas. Tout est abstrait, général, mécanique. Euripide se livre à une vraie analyse de ce qu'est une idéologie politique. On a froid dans le dos quand on pense que si Achille, vivant, voulait Polyxène, vivante, c'était par amour, et qu'il envisageait sereinement de trahir les Grecs en épousant une Troyenne. Tout cela, Ulysse l'oublie. En fait, on est en pleine comédie. Cet Ulysse est une caricature de politicien, un pur manipulateur de langage. Il fait horreur. Aucun spectateur ne peut s'identifier à lui, tellement il est bas, alors qu'on s'identifiera tout de suite à la douleur d'Hécube. Comédie et tragédie sont mêlées par le poète Euripide, ce grand virtuose du théâtre. Dans cette histoire, ce ne sont pas les dieux qui font la tragédie. Ces dieux, en l'occurrence, ne demandent rien. Pour qu'il y ait de la catastrophe, du tragique, il suffit de la bassesse comique d'un tel Ulysse. Mais Ulysse va trouver plus fort que lui. Ce sera la victime qu'il veut sacrifier Polyxène elle-même. La jeune fille va consentir à sa mise à mort, non par bravade, non par héroïsme ou par renoncement, mais tout simplement pour ne pas être traitée en esclave, pour ne pas être contrainte, traînée servilement comme une prisonnière vers son lieu d'immolation. Elle veut y aller, librement, tenue par personne. Captive, elle n'a en fait rien perdu de sa liberté originelle. Les Grecs, qui vont assister à sa mort, vont être bluffés. Eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de se surveiller les uns les autres. Ils ne sont pas aussi libres. La réaction d'Hécube à la mort de sa fille est surprenante. On lui fait le récit du comportement incroyablement maîtrisé, serein, écrasant de noblesse, de beauté, de Polyxène, mené à son immolation et tué. La mère, d'abord, est accablée. Les malheurs n'arrêtent pas de s'accumuler pour elle.
Ma fille, parmi tant de mots présents, je ne sais vers lequel tourner mes yeux. Que j'en touche un, il ne lâche plus. Et de là-bas, un autre à nouveau m'appelle. Et le malheur au malheur succède. Ainsi, aujourd'hui, je ne pourrai de mon esprit effacer ton sort au point de n'en pas gémir.
Mais la noblesse, la qualité montrée par Polyxène au moment où les Grecs sanguinaires l'ont abattu, sont telles qu'Hécube éprouve une sorte de soulagement.
Et pourtant, par l'annonce de ta valeur, tu m'épargnes le trop de la peine.
Puis, sans transition, Hécube se lance dans une dissertation philosophique totalement inattendue sur les rôles respectifs de la naissance et de l'éducation dans le développement des enfants. Les intellectuels de l'époque adoraient ce genre de discussion. On croit rêver ce débat entre nature et éducation. C'est donc ce qu'une mère a envie de dire après le choc énorme qu'elle vient de subir.
N'est-ce pas étrange ? Une mauvaise terre, si les dieux lui sont favorables, porte bien la moisson, et une bonne terre privée du nécessaire donne un mauvais fruit. Tandis que chez les mortels, le gueux ne peut être que lâche et le noble est noble. Le malheur ne corrompt pas sa nature, il est bon et le restera toujours. Qui l'emporte, des géniteurs ou de l'éducation ? Certes, la belle éducation est bien faite pour enseigner le beau et par le canon du beau. Une fois qu'on l'a appris, on apprend à connaître le laid. Mais mon esprit décoche en vain ses traits.
Hécube, dans son accablement, se montre nettement supérieure à Ulysse. Comme lui, elle sait argumenter, elle sait manier des concepts, mais elle ne le fait pas pour manipuler des gens, pour imposer des désastres et des douleurs, en faisant comme si tout cela ne comptait pas. Elle fait la philosophe. Tout simplement pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et qui est extraordinaire, une fois que la douleur est là, bien implantée. C'est tout simplement pour ne pas perdre pied, trouver des mots, des phrases humaines, normales, quand les événements sont déments. On pourrait croire que la philosophie, qui ne cesse d'aligner des généralités plus ou moins obscures, ce tintamarre de cervelle, disait mon grand-père, qui n'aimait pas trop les philosophes, n'a rien à voir avec la tragédie. La tragédie ne se soucie pas de démonstrations logiques, de généralités. Elle s'intéresse à des expériences vécues individuelles, les plus radicales. Mais justement, quand un personnage tragique se met à philosopher, ou à tenter de philosopher, cela signifie qu'il voudrait que ce qu'il vit puisse être partagé par d'autres qui ne souffrent pas comme lui. Il voudrait être normal, rationnel, et en fait, il n'y arrive pas. Les épreuves d'Hécube ne sont pas finies. Elle va être témoin d'une autre catastrophe. Hécube voit arriver Andromaque, la femme et veuve de son fils Hector, le grand guerrier qui a été tué par Achille. Andromaque porte dans ses bras son tout jeune enfant, Astyanax. Elle s'apprête à rejoindre son nouveau maître, Néoptolème, le fils d'Achille, le fils de l'homme qui a tué son mari. Andromaque est en larmes. Elle tente de démontrer à Hécube, accablée, dévastée par la mort de sa fille Polyxène, qu'en fait Polyxène est plus heureuse qu'elle, Andromaque, puisque Polyxène, au moins, est par sa mort délivrée de toute douleur, alors qu'Andromaque est promise à une souffrance et à une humiliation perpétuelle. Hécube, pragmatique, lui dit de se calmer, de se résoudre à plaire à son nouveau mari et maître. Comme ça, son fils Astyanax grandira et aura une vie supportable. Troie, avec lui, pourra alors renaître.
Ô Andromaque, enfant chéri, les mésaventures d'Hector, laisse-les. Il n'y a pas de larmes pour le sauver, même pas les tiennes. Honore celui qui est ton maître du moment, en offrant au mari l'appât aimable de tes manières. Si tu fais cela, tu réjouiras tes amis d'un bien commun et tu pourras élever cet enfant de mon enfant. Bénédiction la plus grande pour toi, afin qu'un jour les enfants nés de toi à nouveau s'établissent à Élion et que la ville existe encore.
Mais justement, les Grecs n'ont aucune envie que Troie renaisse un jour. Ils n'ont aucune envie qu'il y ait un fils d'Hector, un Astyanax, pour la redresser quand cet Astyanax sera grand. Ils décident alors de supprimer l'enfant tout de suite. Les Grecs se sont mis d'accord pour le jeter du haut des remparts de Troie, ces remparts qu'ils ont eu tant de mal à conquérir. Ils accordent à Andromaque le droit de donner une tombe à son fils en l'enterrant dans le bouclier de son père, Hector. Andromaque doit céder. Il ne lui reste plus rien. Comme Polyxène, elle ne peut que faire apparaître la barbarie des Grecs.
Ô enfant, tu pleures. Tu as le sentiment de tes malheurs. Pourquoi m'agrippes-tu? T'attaches-tu à ma robe comme un oisillon qui se précipite dans ses plis? Aucun Hector ne viendra avec sa lance glorieuse dans les mains, remontant de la terre, t'apporter le salut. Aucune parentèle de ton père, aucune force des Troyens. D'un triste saut, tombant d'en haut sur la nuque, impitoyablement tu déchireras ton souffle. Ô jeune embrassement le plus chéri pour une mère, au souffle doux de la peau, c'est donc en pure perte que ce sein t'a nourri dans les langes, qu'en vain j'ai peiné et que je me suis usée dans les travaux. Maintenant et plus jamais encore caresse ta mère. Jette-toi sur celle qui t'a mise au monde, enroule tes bras autour de mon dos et joins harmonieusement ta bouche. Ô Grec, inventeur de méchanceté barbare, pourquoi tuez-vous cet enfant qui n'est coupable de rien ?
Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ce fils d'Achille, Néoptolème, qui était le sacrificateur de Polyxène, qui a fait tuer Astyanax, le fils d'Andromaque, tout en prétendant faire d'Andromaque son épouse, n'a pas une longue vie à vivre devant lui. Une fois rentré chez lui en Grèce avec Andromaque, il va payer par sa mort l'immense sacrilège qu'il a commis pendant la nuit de la prise de Troie. Il avait férocement égorgé Priam, qui s'était mis sous la protection sacrée de l'autel de Zeus. Apollon ne le supportera pas et fera tuer ce Néoptolème par son homme de main, le jeune et brutal Oreste, l'exécuteur de ses bas œuvres. Les dieux savent attendre, mais n'oublie pas les humains criminels. Tout cela n'est décidément pas très gai, mais Euripide, c'est aussi maître de la comédie dans son drame.
Jean Bollac, helléniste.
Chez Euripide, il n'y a qu'une vérité, c'est la cruauté, et c'est la force. C'est-à-dire qu'il n'y a de tragique que dans la mesure où quelqu'un vous a fait prisonnier, qu'il est maître, ou qu'on n'est pas aimé de quelqu'un que l'on aime. Il n'y a pas d'autre sujet chez lui que cette tension entre une supériorité de l'un sur l'autre. Dans la Grèce ancienne ou dans l'Antiquité, il y a deux personnes qu'on appelait le poète, c'était soit Homère, soit Euripide.
She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all.
Egyptian rain, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique.
Pierre-Judée de la Combe nous dit comment les femmes troyennes évoquent la chute de leur ville.
Parmi les captives des Grecs, il y a retenu avec Hécube, Cassandre et les autres, Hélène, la fille de Zeus, l'épouse à l'origine du roi Ménélas, la femme à cause de qui s'est déclenchée cette guerre gigantesque.
Aucune de ces abominations ne se serait produite si tu ne t'étais pas conduite comme une putain en déshonorant celui qui était ton maître légitime.
Jamais je ne l'ai reconnu pour maître, ainsi que tu le sais.
Tu vas reprendre ta place auprès de mon frère.
Hélène est considérée comme une prise de guerre, désormais à la disposition de son premier mari, Ménélas. Il peut en faire ce qu'il veut. On attend la confrontation entre ce mari cocufié, mais finalement victorieux, Ménélas, et la captive, qui est en fait une Grecque. Comment Ménélas va-t-il réagir ? Que veut dire pour lui retrouver sa femme après 10 ans? Et pour elle? Ménélas arrive en triomphateur, en justicier, trop content. Il a fait payer en bonne justice son rival Paris, et il a Hélène à sa merci. Va-t-il la tuer tout de suite ou une fois en Grèce? Les deux sont possibles. Mais manque de chance pour Ménélas. La première personne qu'il rencontre n'est pas Hélène, mais toujours bien plantée là, figée dans sa douleur, immobile, Hécube. La reine va prendre les choses en main. Elle va diriger comme une metteuse en scène les retrouvailles entre Ménélas et Hélène. Ménélas en sortira diminué et comique. Hécube l'avertit tout de suite. La décision qu'a prise Ménélas de mettre à mort Hélène est juste, vu tout ce qu'elle a fait. Mais pourra-t-il maintenir cette décision? Ménélas doit d'abord se méfier de lui-même. Dès qu'il verra Hélène, il sera pris de désir et sa décision tombera.
Je t'approuve, Ménélas, si tu dois tuer ton épouse. Mais dès que tu la vois, fuis. Qu'elle ne t'attrape pas par le désir. Car elle capture les yeux des hommes, capture les villes et incendie les maisons. Tels sont ses charmes. Je le sais, moi comme toi, comme ceux qui en ont souffert.
Dans la version habituelle de l'histoire, Ménélas succombe dès qu'il voit Hélène. Faut dire qu'elle s'est dévoilée la poitrine pour le séduire. Ménélas est saisi. Euripide choisit une autre stratégie de défense pour Hélène. Elle va argumenter et tenter de prouver qu'en fait, elle a rendu un grand service à la Grèce en partant pour Troie. Hécube, qui a beaucoup de raisons de condamner Hélène, impose à Ménélas de ne pas s'emparer tout de suite de sa femme et d'écouter le débat contradictoire qu'elle tient à avoir avec Hélène. Il pourra trancher. Hélène plaide sa cause. Sa plaidoirie est rusée. Grâce à elle, dit-elle, les Grecs, finalement victorieux, sont pleins de gloire. Elle ajoute qu'elle n'a pas quitté Ménélas de plein gré, mais forcée par Aphrodite, etc. Hécube réfute ces arguments l'un après l'autre. Aphrodite n'est pour rien dans toute l'histoire. C'est tout simplement la beauté extraordinaire du fils chéri d'Hécube, Paris, qui a bouleversé Hélène. Et comme cette beauté allait de pair avec la promesse d'une vie de volupté et de grand luxe, Hélène n'a pas hésité.
Quand tu as eu vision de Paris dans ses vêtements barbares, lumineux d'or, ta pensée se dérégla. Car en Grèce, tu tournais sur toi-même avec de petits moyens. En te délivrant de Sparte pour la ville des Troyens et ses flots d'or, tu espérais déclencher un déluge de dépenses. Il ne te suffisait pas le palais de Ménélas pour jouir jusqu'au bout de la violence de tes sens.
Bref, rien que de l'humain, dit Manal. Une histoire de pulsions amoureuses et de cupidité. Ce n'est pas la peine de convoquer les dieux pour comprendre cette histoire sordide. Mais du coup, avec ce débat contradictoire, on ne sait plus vraiment ce qui s'est passé. Tout vacille. Il n'y a plus de certitude. Chacune, Hélène et Hécube, tient à sa vérité. L'histoire de Troie, d'Hélène, de la famille d'Hécube et de Priam devient une affaire d'opinion, alors qu'il y a bien eu 10 années de guerre, de souffrance, de déchaînement. Ménélas est peu habile en argumentation. Face à ces femmes qui manient aussi bien la rhétorique, parce que pour elles c'est vital, il ne sait pas quoi répondre. Il devient petit, grossier. Sa nature de mâle sommaire et trépignant ressort brusquement. Il tient toujours à faire tuer Hélène en Grèce et veut l'emmener de force sur son bateau. Le dernier dialogue des trois, Ménélas, Hélène et Hécube, est pathétique. Et pour ce qui est de Ménélas, grotesque.
Ménélas.
Va, Hélène, vers qui te lapidera, et paye en un court instant les longues peines des Achéens par ta mort, afin que tu saches ne pas m'humilier. Hélène.
Non, par tes genoux, ne me charge pas d'une maladie qui est venue des dieux. Ne me tue pas. Pardonne.
Hécube.
Mais non, Ménélas, ne trahis pas les alliés que cette femme a tués. Moi, pour eux, pour mes enfants, je t'en fais la prière. Ménélas.
Cesse, vieille femme. Je ne me soucie pas d'elle. Je dis au serviteur de la sortir d'ici et de l'emmener aux poupes des bateaux sur lesquels elle naviguera. Hécube.
Alors qu'elle n'embarque pas sur le même bâtiment que toi.
La réponse de Ménélas est sidérante de vulgarité. Au moins Hécube est plus à la hauteur. Elle parle d'amour et de désir.
Ménélas.
Qu'est-ce que tu veux dire? Pèse-t-elle plus lourd qu'avant? Hécube.
Il n'est pas un vrai amant celui qui n'aime pas toujours.
Hécube a raison. Ménélas aime et aimera toujours Hélène. Non seulement il ne la tuera pas, mais ravi, il vivra avec elle des jours heureux dans leur palais de Sparte. Cela, tous les spectateurs le savaient. Homère le raconte, en long et en large, dans son Odyssée. Tout ça pour ça. Les mâles font piètre figure dans les pièces d'Euripide. Ils agissent, souffrent, gagnent parfois et pensent maîtriser le monde. Ils ont toujours des mots bien sentis à la bouche pour dire ce qui doit être. Ils se croient légitimes et surtout, ils se croient puissants comme des dieux, car ils pensent avoir l'opinion avec eux. Cette dépendance des hommes vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis de leur société, va créer des catastrophes, va imposer des tragédies sanglantes. Les femmes qui sont leurs victimes n'auront qu'une seule arme, utilisée mieux que ces parleurs qui ne parlent que pour assurer leur pouvoir, l'arme du langage, l'arme du raisonnement. La plainte, les pleurs, qui pourtant ont tant de raisons de couler, ne suffisent pas. Les hommes diraient encore que c'est féminin, est inutile. Les femmes se serviront des mots, puisque c'est tout ce qui leur reste. Mais les dieux, que font-ils? Ils ont lancé les Grecs contre Troie. Ils leur ont permis de prendre la ville. Mais après, ils n'ont plus rien fait. Ils laissent les hommes tuer Polyxène, Astyanax. Ils les laissent être monstrueux de leur propre chef, sans rien leur imposer. En fait, les dieux sont pleinement d'accord avec les femmes de Troie, avec Hécube, Cassandre, Andromaque. Pour les dieux, ce qui compte, ce n'est pas la politique, la grandeur et le salut de la Grèce. Idées floues qui ont fait tuer Polyxène et Astyanax. Ce n'est même pas la justesse des causes que les humains prétendent défendre. Ce qui compte, c'est ce que les hommes ont réellement fait. Le fils d'Achille a tué le vieux Priam sur l'autel de Zeus. Ajax a violé ou tenté de violer Cassandre dans le temple d'Athéna. Les Grecs ne l'ont pas puni. Cela suffit pour mettre en rage Athéna, pour qu'elle se retourne contre les Grecs qu'elle avait tellement soutenus et leur impose sa colère. Les dieux ne font pas de la politique, comme ces calculateurs que sont Ulysse et Néoptolème. Ils n'ont pas le bien commun à la bouche pour justifier leurs horreurs. Ils constatent, Zeus, Athéna, Priam, Cassandre n'ont pas été respectés. Ça doit se payer. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur politique mal comprise. Sacrifier une vierge sur la tombe d'Achille, massacrer un enfant innocent. Ils ne savent pas ce qui les attend. Le vrai réel, la vraie réalité se décide ailleurs, chez les dieux. Athéna est en rage. Euripide nous montre comment elle s'entend avec Poséidon et avec Zeus pour qu'une tempête énorme s'abatte sur la flotte grecque quand elle aura pris le large pour la Grèce. Elle convainc Poséidon de déchaîner les eaux et les vents de la mer Égée.
Mes ennemis d'alors, les Troyens, je veux les réjouir, et l'armée des Achéens la frapper d'un retour amer.
Mais pourquoi sautes-tu ainsi d'une manière à l'autre? Tu exècres et aimes à l'excès qui te tombe sous la main.
Tu ne sais pas que j'ai été violentée, moi et mon temple?
Je sais, quand Ajax a violemment saisi Cassandre.
Et des Achéens, il ne subit rien et n'entendit rien.
Mais ils ravagèrent Ilion grâce à ta force.
Pour cela, je veux avec toi leur faire du mal.
Ce que tu décides, j'y suis prêt de mon côté. Tu feras quoi?
Je veux les frapper d'un retour qui soit un retour mauvais.
Pendant qu'ils demeurent à terre ou sur la mer salée?
Lorsque depuis Ilion, ils navigueront vers chez eux. Zeus enverra une pluie et une grêle indicibles et les exhalaisons ténébreuses de l'éther. Il dit qu'il me donnera le feu de l'éclair pour frapper les Achéens et embraser de feu les bateaux. Et toi, selon ta fonction, fais que les chemins de la mer Égée grondent de vagues triples et de tourbillons. Remplis de cadavres le fond creux de l'Eubée, pour qu'à l'avenir, ils sachent vénérer pieusement mes sanctuaires, les Achéens, et vénérer les autres dieux.
Poséidon s'engage à faire comme Athéna le lui demande.
Cela se fera. Le plaisir, en effet, ne demande pas de longs discours. Je bouleverserai la haute mer de l'Égée et les falaises de Mykonos, et les échines de Délos, Skyros, Lemnos et les falaises de Caphareë retiendront les corps d'une foule morte de cadavres. Va vers l'Olympe, et quand tu auras reçu les traits de la foudre des mains de ton père, guette avec impatience le moment où l'armée des Achéens lâchera ses amarres. Il est fou, le mortel qui ravage des villes et qui livre aux vides temples et tombeaux lieux sacrés des disparus. Il s'est lui-même voué à la destruction pour plus tard.
La flotte grecque va être dispersée, beaucoup mourront. Cassandre et Athéna seront vengés. Ulysse ne trouvera pas avant 10 années le chemin de sa maison. Ménélas va errer 7 ans. Le monde grec sera changé. Ajax, le petit qui a violenté Cassandre, sera jeté sur un rocher puis frappé par le trident de Poséidon. Ce sera par cette tempête, après tous les morts de la guerre, la fin d'une époque, celle des héros, celle des demi-dieux. Les humains, depuis ces désastres, vivent dans un autre monde. Bientôt, nous fréquenterons ce Poséidon, ce dieu marin aux cheveux bleus, qui lève les tempêtes, qui court avec les vagues, qui a la force, la vitesse des chevaux. La semaine prochaine, nous retrouverons Hermès, le dieu fourbe, voleur, malin, le dieu des passages.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Philippe Thibault et le mixage par Antoine Espel. Bonne journée sur France Inter.